Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Si vous le cherchez dans les méandres de votre vie et de votre histoire, alors écoutez, c'est lui qui vous a cherché le premier et qui viendra toujours à nouveau vous trouver au moment peut-être où vous pensez que plus rien ne peut survenir pour vous. Si vous l'appelez de tout votre cœur et de toutes vos forces, alors écoutez. C'est lui qui le premier vous a appelé par votre nom. Un nom que nul ne peut vous ravir, car c'est le nom que chacun donne à celui ou celle qu'il aime d'un amour inconditionnel. Si vous voulez déposer devant lui un peu de ce que vous possédez ou de ce que vous pensez être, alors écoutez. C'est lui qui le premier, sans rien demander en échange, vous donne la paix et la confiance nécessaires à votre vie. Alors, si l'on vous demande de justifier votre existence, désignez simplement ce qui vous a été donné, la parole qui vous a aimé, le geste qui vous a guéri, la présence qui vous a relevé. C'est cela qui justifie votre vie, ce qu'un autre a fait pour vous, ce que Jésus-Christ a fait pour toi.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de Paul, de Silas et bien sûr de la parole avec un grand P. Le texte biblique que nous allons lire ce matin va nous entraîner dans le sillage donc de Paul et de Silas, deux missionnaires qui, de ville en ville, de contrée en contrée, portent toujours plus loin la parole de Dieu, n'hésitant pas à intervenir dans l'espace public. Alors, un tel projet, et le mot même de missionnaires ont de quoi alimenter la peur que suscitent aujourd'hui les religions, souvent suspectées et parfois non sans raison, de prosélytisme, voire même de fanatisme. Alors je vous invite à découvrir, à travers ce passage du livre des Actes, différents visages du témoignage des premiers chrétiens et comment ils ont pu déjà en inquiéter plus d'un.
Nous allons donc commencer par lire, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, les versets 6 à 10. Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne les laissa pas faire. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la bonne nouvelle.
Paul avait plein de projets dans ses cartons de missionnaires, notamment en Asie. Mais pour d'obscures raisons, il fut empêché de les réaliser. Il ne renonce pas pour autant à porter plus loin l'évangile du Christ. Le voilà à Troas avec son compagnon Silas. C'est là qu'une nuit lui apparaît un Macédonien qui adresse ce cri, cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Ce Macédonien, c'est l'autre inattendu, envahissant parfois, qui tout à coup fait irruption dans mon existence comme dans celle de Paul. C'est l'aspiration confuse ou la prière fervente de celles et de ceux qui réclament une parole d'espérance pour orienter leur vie. Passe en Macédoine et viens à notre secours. Alors, sur ce seul appel, sur une simple parole de l'autre, qui tout à coup a crié dans sa nuit, tout à coup est entré dans sa vie, Paul va abandonner ce qu'il avait prévu pour s'en aller ailleurs. Ainsi, ce Macédonien offre le premier visage du témoignage, le visage de l'écoute.
Il ne peut y avoir en effet d'annonce de la parole sans cette capacité à entendre les autres, à se laisser rejoindre par celles et ceux qui attendent d'être entendus, reconnus, guéris, remis debout. Alors surgit une question. Suis-je prêt, moi aussi, aujourd'hui, à me laisser émouvoir et à me laisser déranger dans mes projets, mes plans, mes programmes? Suis-je prête à me laisser bousculer dans ma vie personnelle, professionnelle, citoyenne, par les appels de tant d'hommes et de femmes en souffrance qui cherchent des raisons de vivre, de croire et d'espérer? Or, parfois, et cela ne concerne pas que les croyants, chacun est tellement habité par le désir de transmettre ce qu'il a reçu, si pressé de dire sa bonne parole, si préoccupé par ce qu'il va apporter, qu'avec les meilleures intentions du monde, il ne prend pas le temps d'entendre l'autre, le temps de l'accueillir tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. C'est pourtant à travers cette écoute attentive, ce temps laissé à la parole de l'autre, que l'appel de Dieu peut me rejoindre et orienter ma propre vie. C'est au croisement de cette double écoute, celle de la parole de Dieu et celle des paroles humaines, que se tient le témoin. Paroles de l'autre, paroles des autres, qui me conduisent parfois vers l'imprévu et l'inattendu, ce qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas toujours confortable. Alors oui, la religion peut être sinon dangereuse, en tout cas dérangeante. Quand la parole m'appelle à changer de vie et qu'elle me déplace, comme Paul, là où je n'avais pas forcément envie d'aller.
In a darkened room, feel so gloomy since you went away. If I let the light come in, could I make it for another day? 'Cause I never know when you'll be back again. Every time you go, time is your only plan. If it's yes, you know you hold it in your hand.
It's in your hands.
Say my eyes are closed, please make me understand. At my life wasted in tears, calling like a buzzing bee on a phone that you don't even hear. 'Cause I never know when you'll be back again. Every time you go, time is your only plan. If it's yes, you know you hold it in your hand.
It's in your hands.
So my eyes are closed, please make me understand. Despite my fears, through all these years, these bears, what I've been driven to, I always wish that you'd be true like me, 'cause I never know when.
Nous continuons de lire au chapitre 16 du livre des Actes, les versets 11 à 15. Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace. Puis le lendemain, sur Néapolis, et là nous sommes allés à Philippe, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte, pour gagner le long d'une rivière, un endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu, était tout oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes : « Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et elle nous a forcés à accepter.
Portés par l'appel du Macédonien, Paul et Silas arrivent à Philippe. Peut-être pensent-ils trouver là, puisqu'on les a appelés, une foule nombreuse, impatiente de recevoir la parole de Dieu. Or, ce jour-là, il n'en est rien. Aucun comité d'accueil ou d'organisation, pas de tribune, Pas de scène d'évangélisation à grand spectacle, juste une scène de la vie quotidienne, quelques femmes assises dans un lieu de prière. Ainsi, le témoignage n'a pas besoin d'effets spéciaux. Il ne s'inscrit pas forcément dans des actions d'éclat visibles et tapageuses. Il prend place dans le quotidien de l'existence, quand il permet à la parole de rejoindre chacun là où il est, là où il en est, au milieu de ses activités ordinaires, au cœur de ses questions, de ses attentes, de ses peines et de ses bonheurs.
Et ici, c'est une femme, Lydie, qui va répondre à l'appel de la parole, offrant le deuxième visage du témoignage, celui de la rencontre. En effet, la foi au Christ n'est pas de l'ordre d'un savoir. Ce n'est pas une formulation dogmatique ou une morale, mais c'est d'abord l'événement d'une rencontre avec Dieu. C'est l'espérance et l'expérience aussi d'une vie transformée par lui. Est-ce un clin d'œil particulier ? Le premier chrétien en Europe est une chrétienne, une femme, si souvent exclue et marginalisée dans la société de l'époque. Ce passé est-il vraiment révolu dans la nôtre ? Qu'en est-il dans nos vies conjugales et familiales, dans les églises, dans le monde professionnel et jusque dans la vie politique, où il a fallu pas moins d'une loi pour imposer la parité ? Et comment ne pas évoquer les violences faites encore aujourd'hui aux femmes, au nom de Dieu, trop souvent dans un silence religieux. De surcroît, deuxième clin d'œil, cette Lydie est une étrangère, une émigrée asiatique. C'est aussi une commerçante en produits de luxe, une femme branchée, dont les préoccupations futiles et mercantiles devraient être à 100 lieues de l'Évangile.
Certes, elle ne devait pas être pleinement satisfaite de cette existence un peu bling-bling, comme on dit maintenant, puisqu'il nous est dit que déjà elle cherchait Dieu. Mais ce jour-là, à l'écoute de Paul, elle va se convertir et changer de vie. Car elle découvre, en entendant cette parole, que l'essentiel n'est pas dans ce qu'elle fait, ni dans ce qu'elle possède, mais elle vit désormais de ce qu'un autre lui donne. Alors, ayant reçu par le baptême une identité nouvelle, Lydie ne va plus s'accrocher à l'ancienne, faite de notoriété sociale et de frivolité. Elle va même jusqu'à prendre des risques pour elle-même, pour sa famille et pour ses affaires. Notamment, en forçant ses inconnus à venir habiter chez elle, elle se compromet. Car tout se sait dans la ville. Et cette femme qui a accueilli des hommes sera très vite mise en cause quand la population sera ameutée et déchaînée contre les missionnaires. Mais qu'importe maintenant, le Christ l'a rencontrée et elle a rencontré le Christ. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Alors oui, la foi peut être dangereuse pour le croyant lui-même quand il a le courage de la vivre au grand jour.
People tell me, don't look back, the past far behind. But I keep on looking, like there's something to find. They tell me, remember, that I should forget. I've tried to succeed, but I still haven't yet. Now that there's nothing before me but a long, wide open road, emptiness is all around me, without an end for all I know. People tell me, don't worry, it's all for the best. If I could be signes comme ça. Si je pouvais les croire, je l'aurais déjà fait.
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Les intermèdes musicaux sont des extraits d'un CD de Gaby Hartmann. Donc nous poursuivons la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 16, versets maintenant 16 à 24. Un jour où nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ses oracles procurait de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle recommença pendant plusieurs jours. Excédé, Paul a fini par se retourner et a dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ses maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, ont alors mis la main sur Paul et Silas et les ont traînés jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ils les leur présentèrent en disant « Ces hommes jettent le trouble dans notre ville. Ils sont juifs et prônent des règles de conduite qui ne nous est pas permis à nous, Romains, d'admettre ni de suivre. » Et la foule s'est déchaînée contre eux. Les magistrats ont fait arracher leurs vêtements, donné l'ordre de les battre de verges, et après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en leur donnant aux gardiens de les surveiller de près. Telle étant la consigne reçue, il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur fixa les pieds dans des blocs de bois.
Donc Paul et Silas poursuivent leur route et très vite ils vont connaître de sérieux problèmes. Leur message est tellement différent, tellement dérangeant, qu'ils bousculent les idoles et les puissances en place. Ce jour-là, se sentant menacées, elles vont sortir de l'ombre pour expulser le gêneur et l'empêcheur de s'enrichir en rond. Il y a en effet dans cette ville une jeune servante que l'on dit capable de prédire l'avenir. On ne sourit pas, ce sont là des pratiques qui sont en plein essor dans notre société actuelle et prétendument rationnelle. C'est en tout cas ici une mine d'or qui rapporte gros à ses employeurs. Alors, cette jeune femme esclave va être le troisième visage du témoignage quand l'annonce de la parole se fait protestation. Car Paul, bien sûr, va refuser de rentrer dans ce sinistre commerce qui exploite la crédulité humaine. Alors, il chasse l'esprit qui possédait la jeune femme. Et à travers ce geste de libération, il proclame plus publiquement que le destin des hommes et des femmes n'est pas fabriqué d'avance et qu'il n'est pas fatal que le profit ou toute autre puissance obscure mène ainsi le monde. Mais un tel message n'est pas acceptable par les pouvoirs qui se nourrissent de la faiblesse, du désarroi et de la naïveté. Il n'est pas supportable par les idoles familières qui tissent au quotidien les liens de nos servitudes. Il n'est pas compatible avec les logiques marchandes qui jettent au rivage de nos sociétés des échoués de l'espérance.
Alors, les patrons de l'esclave, voyant s'enfuir l'espoir de leur gain, se saisissent des apôtres et ils les traînent devant les magistrats, ces étrangers qui viennent manger le pain des Romains. Ils sont juifs et ils créent du désordre dans notre ville parce qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous. Il y a 20 siècles déjà, la même accusation, la même funeste clameur si souvent entendue, avec les conséquences que l'on sait tout au long de l'histoire, encore ces derniers temps de manière particulièrement inquiétante sur le sol de l'Europe et dans notre propre pays. Ils sont juifs, ils sont arabes, ils sont musulmans, ils sont roms, ils sont différents. Car quand les puissances chancellent, quand l'avoir et le pouvoir sont menacés, quand nos propres peurs et nos propres fragilités reviennent à la surface, les vieux démons ne sont pas loin. On cherche alors des boucs émissaires, on accuse les autres, les étrangers de préférence. Et ce jour-là, les magistrats, après avoir fait battre les prévenus, les font emprisonner, ordonnant même aux gardiens de les surveiller de près, comme des gens dangereux. Les chrétiens sont-ils considérés aujourd'hui comme des gens dérangeants, voire dangereux? Suscitent-ils le débat par leurs témoignages? Sont-ils prêts à proclamer face aux puissances de ce monde la liberté imprenable reçue en Jésus-Christ? Ou bien, au nom d'une laïcité aseptisée, abdiquent-ils toute expression publique de leurs convictions, participant à cette tolérance molle forte à la mode aujourd'hui qui, de compromis en compromission, en vient à tolérer l'intolérable.
Avec ses mille rivages, avec ses mille sillages, la mer murmure au bateau le mystère de ses eaux. De vague en vague déchirante, dont les eaux douces étincelantes se mêlent la colère et le calme. Entre le vent et les algues, les flots d'or et d'azur nous bercent l'âme comme un doux amour et déposent sur le sable l'écume de nos jours. Avec ces mille voyages, avec ces mille orages, la vie comme une barque dans une mer sans rame. Au loin le large bleu dessine une ligne, une fin, des adieux où voguent tous les navires vers l'écume de tes yeux. Quand vient la houle agitée dans une plainte insensée, les bateaux flottent au hasard, se balancent, tanguent et s'égarent. Au loin le large bleu dessine une ligne, une fin, des adieux où voguent tous les navires vers l'écume de tes yeux.
Et nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous allons lire donc dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, les versets 25 à 40. Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les liens de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le gardien vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte : « Ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là. » Le gardien demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et, tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les ayant fait sortir, il leur dit : « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu.
Le jour venu, les magistrats envoyèrent des agents dire au gardien : « Relâche ces hommes. » Le gardien communiqua cette nouvelle à Paul. Les magistrats envoient dire de vous relâcher. Dans ces conditions, sortez donc et partez en paix. Mais Paul déclara : « Ils nous ont fait battre en public, sans condamnation, nous qui sommes citoyens romains. Ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, c'est clandestinement qu'ils veulent nous jeter dehors. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent en personne nous libérer. » Les agents rapportèrent ces propos aux magistrats, qui prirent peur en apprenant leur qualité de citoyens romains, et vinrent s'excuser auprès d'eux. Puis ils les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, Paul et Silas allèrent trouver Lydie, virent les frères pour les encourager, puis ils repartirent.
Paul et Silas n'ont pas accepté l'inacceptable et ils en payent le prix. que leur reste-t-il à cet instant de force et d'espérance? Ils sont meurtris, captifs, abandonnés. C'est pourtant à ce moment-là, au moment où leur parole est désarmée et enfermée entre les quatre murs d'une prison, qu'elle va déclencher une formidable libération. Du fond de leur cellule la plus reculée, chaînes aux mains et fers aux pieds, ils font monter vers Dieu leur chant de louange et leur prière. Comme un premier acte de résistance et d'espérance, comme un défi lancé à la face du malheur. Or, c'est ainsi que l'Évangile va pénétrer ce jour-là dans le lieu le plus inattendu, une prison, pour y créer la situation la plus inattendue, un gardien libéré par ses propres prisonniers. C'est le monde à l'envers. C'est une nouvelle renversante, c'est une vie bouleversée. Ainsi, après un étranger macédonien, une femme d'affaires à la mode, une servante asservie, c'est un gardien de prison qui révèle le quatrième visage du témoignage, celui de la faiblesse. Un visage qui prend à contre-pied toute volonté de domination des chrétiens et des églises sur la société, toute tentation d'hégémonie, d'intolérance, voire de fanatisme des religions. Ce texte rappelle au contraire que c'est dans la fragilité d'une parole toujours exposée et risquée que l'Évangile chemine et peut rejoindre chacune et chacun. C'est même parfois dans les lieux les plus improbables, au cœur des situations les plus précaires, quand les témoins sont les plus démunis, qu'une parole de libération peut se dire, parfois même à leur insu. Mais ce visage de la faiblesse, souligné par ce texte, interroge aussi les autorités de la cité. Dès lors qu'elles se sont émancipées des tutelles religieuses, elles ont parallèlement pour devoir de garantir la liberté de conscience et d'assurer le respect des citoyens, quelle que soit leur religion.
Ici, les autorités vont la prendre à leurs dépens. Considérant Paul et Silas comme des étrangers, les magistrats les ont fait flageller en public sans autre forme de procès. Sauf qu'ils ont oublié de vérifier leurs papiers, et ils n'ont donc pas vu qu'ils étaient en fait citoyens romains. Alors, découvrant leur bavure, ils demandent qu'on les laisse repartir en douce. Mais Paul ne l'entend pas de cette oreille, et il a le courage de demander réparation. Alors bien sûr, les magistrats, dit le texte, furent pris de peur, et il vint s'excuser avant de les libérer, leur demandant de quitter la ville. Cela montre bien qu'il peut arriver, en effet, que les responsables politiques aient peur des religions, notamment lorsqu'elles témoignent, comme dans ce texte, de leur capacité d'indignation, lorsqu'elles réclament, comme Paul, la justice, lorsqu'elles rappellent les principes du droit à ceux qui ont précisément pour mission d'en être les défenseurs.
Le chrétien, disciple d'un Seigneur crucifié, ne saurait donc prétendre imposer aux autres et à la société ses propres convictions. Mais cette posture de faiblesse ne le rend pas indifférent aux souffrances de la terre. Témoin d'un Dieu qui s'est incarné dans l'histoire, il trouve dans sa parole le courage de la vigilance et de la résistance. Il atteste, il proteste, comme Paul, par ses mots et par ses actes, et quoi qu'il en coûte, que l'avenir n'appartiendra jamais aux forces du malheur. Amen.
Lonely as if I'll forever.
Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple protestant 20 rue Saint-Thomas à Chartres et que nous serons très heureux de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
The wind will change direction. Maybe I won't need your affection.